Notre nouveau Premier ministre donne un peu le sentiment d'être sur Radio Courtoisie.
Il existe même des radios d'opinion, comme Radio Courtoisie.
Vous avez fait ensemble la matinale de Radio Courtoisie.
Radio Courtoisie.
Indépendance totale.
7h, 10h sur Radio Courtoisie, ligne droite, avec Richard de Sèze.
Bonjour chers amis, bienvenue sur Ligne Droite, la matinale de Radio Courtoisie, avec Maëlys, avec Magda, avec Arnaud. Bonjour à tous.
Bonjour Richard.
Voilà, formidable.
Bonjour.
Nous recevrons tout à l'heure Anne Coffigné qui nous parlera de des menaces qui se pèsent sur les écoles indépendantes. Hervé Carès nous parlera de l'Union Européenne et du trouble jeu qu'elle joue à l'occasion de la guerre contre l'Ukraine. Éric Michoud, député UDR, nous parlera de la manière dont l'État a abandonné les PME et les TPE. Antoine Dresse reviendra sur la mort de Charlie Kirk un an après son assassinat par un gauchiste américain. Jean-Yves Gana nous en parlera aussi. Alice Cordier nous honorera de sa chronique et Régis Le Sommier, évidemment, nous parlera d'actualité internationale. C'est un très beau numéro de Ligne Droite, une fois de plus. Restez avec nous jusqu'à 10h, ce sera passionnant d'un bout à l'autre. Et d'ailleurs, ce côté absolument passionnant, nous en avons la preuve immédiate avec les actualités.
Autour de la crise migratoire de Ceuta, l'Union européenne a accordé mercredi une aide d'urgence de 115 millions d'euros à l'Espagne pour la soutenir de la gestion de l'enclave, notamment pour renforcer la surveillance des frontières et financer les renvois des migrants entrés illégalement. Au même moment, des documents des services de renseignement espagnols déclassifiés ce mercredi viennent contredire frontalement le Premier ministre socialiste Pedro Sanchez, qui affirmait devant les députés n'avoir reçu aucune information lui permettant d'anticiper l'ampleur de la crise, sauf qu'une note urgente du 29 juillet, la veille de l'afflux massif, alertait précisément sur la planification de plusieurs appels à l'action pour mener des incursions à Ceuta. Le gouvernement savait et n'a rien fait. La porte-parole du Parti populaire espagnol, Esther Muñoz, évoquait une invasion de Ceuta dont l'exécutif serait directement responsable. Quant au rôle du Maroc, un document des renseignements militaires évoque une négligence et une passivité des autorités marocaines, sans retenir de planification active, une version qui arrange bien le gouvernement espagnol, empressé de dédouaner Rabat plutôt que d'assumer ses propres failles. Résultat, c'est une nouvelle fois l'Europe qui subit la crise migratoire que Madrid savait venir et n'a pas su ou pas voulu anticiper.
Et Marion Maréchal sera bien présente dans la campagne de Marine Le Pen.
Et oui, Marion Maréchal a assuré ce mercredi sur CNews et Europe 1 qu'elle sera évidemment présente aux grands événements de la campagne présidentielle de sa tante Marine Le Pen. L'eurodéputée d'Identité Liberté a insisté, la campagne va très bien se passer, certifiant que personne n'a l'intention de nuire au sein du camp nationaliste, seuls les adversaires cherchant selon elle à provoquer une division. Elle a précisé qu'elle ne serait pas présente ce week-end aux journées parlementaires du RN au Touquet, retenue par un déplacement en Italie. Écoutons-la sur CNews.
Pourquoi j'ai fait le choix de soutenir Marine Le Pen ? J'ai fait le choix de soutenir Marine Le Pen parce que je considère que, vous voyez, dans la vie, il y a des sujets réversibles et des sujets irréversibles, il y a des choix plus ou moins urgents. Et je considère que l'un des sujets irréversibles qui s'avance, c'est celui de la démographie, c'est celui du grand remplacement de la population française, c'est celui de l'islamisation de notre société, celui de la menace islamiste. Voilà. Et là-dessus, Marine Le Pen a une réponse qui est, pour moi, tout à fait satisfaisante. Et c'est pourquoi je suis à ses côtés, moyennant par ailleurs, une fois de plus, des accords économiques sur les grands principes dont je vous ai parlé tout à l'heure. Maintenant, évidemment, moi, mon objectif, c'est non seulement de faire en sorte que Marine Le Pen soit élue présidente de la République, que Jordan Bardella ait la plus large majorité possible à l'Assemblée, de faire en sorte, bien sûr, que le courant auquel je crois soit représenté, d'ailleurs, demain à l'Assemblée nationale, aux côtés de ses alliés. Et demain, j'ai envie de vous dire, de défendre aussi l'idée d'un troisième tour européen, c'est-à-dire quoi ? C'est-à-dire, en fait, potentiellement, une grande alliance Giorgia Meloni en Italie, Marine Le Pen en France, c'est-à-dire un nouveau couple franco-italien qui permettrait de réorienter l'Union européenne. Et ça, je vais aussi y travailler parce que Giorgia Meloni est aujourd'hui une de mes alliées.
Et c'est sans mea culpa qu'Anne Hidalgo défend son bilan sur le périscolaire.
Oui, alors qu'Anne Hidalgo est visée par une plainte pénale déposée par une quinzaine de familles qui dénoncent des violences sexuelles subies par leurs enfants dans le cadre du périscolaire parisien pendant son mandat. L'ex-maire de Paris a assuré ce mercredi sur France Inter se tenir aux côtés des familles et regretter de ne pas avoir participé aux réunions organisées dans les écoles concernées sans présenter la moindre excuse. Justification avancée pour ce manque, la ville était alors en pleine campagne des municipales. Un moment complexe, dit-elle, comme si le calendrier électoral pouvait excuser l'absence d'une mère face à des familles d'enfants agressés dans des établissements dont elle avait la responsabilité pendant des années. Anne Hidalgo va même jusqu'à parler de qualification pénale, pardon, absente pour se défendre, autrement dit qu'aucune infraction ne pourrait juridiquement lui être reprochée à titre individuel. Une formule glaçante employée par une élue qui préfère visiblement les arguties juridiques à l'empathie sincère. Anne Hidalgo devra s'expliquer plus en détail la semaine prochaine devant une commission d'enquête sénatoriale où on espère qu'elle sera un peu moins dans la posture défensive et un peu plus de la responsabilité assumée, ce qu'elle se refuse pour l'instant obstinément à faire.
Voilà, et le taux d'intérêt de la dette française a encore grimpé.
Oui, la France paie désormais le prix fort pour emprunter. Le taux à 10 ans a dépassé 4,3% hier, un niveau plus vu depuis 2008. Contre 3,9% il y a un mois et 3,6% en juin, ça grimpe vite. Porté par la flambée du pétrole à cause de la guerre en Iran et par l'endettement massif partout dans le monde. Mais la France s'en sort encore plus mal que ses voisins. L'agence France Trésor a déjà dû garantir 4,23% à ses créanciers début septembre. Chaque dixième de point en plus, ce sont des milliards d'euros d'intérêts en plus chaque année, de l'argent qui part directement dans les poches des créanciers plutôt que vers les écoles, les hôpitaux ou la défense. Sébastien Lecornu doit maintenant présenter son plan pour réduire le déficit en 2027, alors que celui de 2026 s'annonce déjà pire que prévu, la facture de des années de laxisme budgétaire.
Voilà, il a prétendu baisser la rémunération des ministres. On sent que ça, évidemment, va peser hyper lourd par rapport aux 3600 milliards d'euros de la dette. Et un petit mot de sport.
Oui, pour la première journée de Ligue des Champions, on parle de foot, excusez-moi Maëlys, le PSG a largement remporté le match à domicile face à Bratislava 6-1.
6-1, formidable. Et il va faire beau aujourd'hui pour fêter ça ?
Alors oui, ce matin, le soleil revient sur la plupart de nos régions avec une certaine fraîcheur. Cet après-midi, temps agréable sur l'ensemble du pays avec une douceur de saison. Côté température, nous pourrons relever ce matin 11 à Lille, 10 au Mans, 11 à Chartres et 13 à Cherbourg. Et dans l'après-midi, les maximales seront de 23 sur le Grand Est, 21 pour le Hauts-de-France et 19 en Normandie. Et nous célébrons ce 10 septembre Saint Inès et Saint Aubert, qui était un évêque du diocèse d'Avranches en Normandie au 8e siècle. Et il est surtout connu pour avoir fondé sur ordre de l'archange Saint-Michel le sanctuaire qui allait devenir le Mont Saint-Michel.
Et donc pas si normand que ça finalement, puisque ça a été fondé par un évêque normand. C'est pas pour allumer la guerre, mais quand même une petite polémique dès le matin. Merci beaucoup Magda.
Ligne droite.
Et bonjour Maëlys.
Bonjour Richard.
Alors vous allez nous parler de l'AFD et surtout des étranges réactions de Friedrich Merz.
Et oui, effectivement Richard, puisque vous le savez, 44% c'est le score réalisé dimanche par l'AFD en Saxe-Anhalt. Une claque monumentale pour Friedrich Merz et sa CDU, tombée autour de 17%. Et visiblement, quand on ne parvient plus à battre son adversaire dans les urnes, il reste toujours une solution, sortir les très, très grands mots. Ce mercredi, au Bundestag, la chambre basse du Parlement allemand, Friedrich Merz a accusé l'AFD de promouvoir ni plus ni moins qu'un nettoyage ethnique. Selon lui, le mot « remigration » ne serait rien d'autre que le synonyme de nettoyage fondé sur l'origine et la couleur de peau. 3 jours après la gifle électorale, plutôt que de se demander pourquoi près d'un électeur sur deux a choisi l'AFD, Merz choisit donc l'arme atomique sémantique. Mais encore faudrait-il définir ce mot de remigration. Dans son sens politique, la remigration désigne tout simplement une inversion des flux migratoires, réduire les entrées et augmenter les retours vers les pays d'origine. Cela peut passer par des départs volontaires, l'éloignement des clandestins, l'expulsion de certains étrangers délinquants ou encore le non-renouvellement de certains titres de séjour. Prenons l'exemple le plus concret chez nous, l'OQTF, la fameuse obligation de quitter le territoire français. Lorsqu'elle est exécutée et que l'étranger retourne dans son pays, on peut parler au sens large d'une forme de remigration administrative. Ce n'est évidemment pas le terme juridique utilisé par l'administration, mais le principe est bien celui d'un retour. Et surtout, cette obligation est prononcée par l'État lui-même. La France prononce autour de 130 000 OQTF par an. Pourtant, leur taux d'exécution n'était que de 11,4% en 2024 et 10,6% au début de 2025, selon les chiffres repris par le Sénat. Le débat ne porte donc même pas seulement sur de nouvelles mesures, il porte déjà sur la capacité et la volonté de l'État à faire respecter celles qu'il prononce. Une politique parfaitement officielle donc quand l'État daigne la rendre effective. Mais le chiffre le plus savoureux pour Friedrich Merz vient de Bruxelles. En 2025, près de 492 000 ressortissants de pays tiers ont reçu l'ordre de quitter un État de l'Union européenne. 135 460 ont effectivement été renvoyés vers un pays extérieur à l'Union. Et devinez quel pays arrive en tête en la matière ? L'Allemagne. 29 295 retours en une seule année contre 14 940 pour la France. L'Allemagne de Friedrich Merz pratique donc elle-même une politique parfaitement légale de retour des étrangers qui doivent quitter son territoire. Et près de 60% des retours recensés dans l'Union étaient volontaires. Voilà qui est déjà un peu plus concret que le grand épouvantail du nettoyage ethnique. Seulement, les défenseurs de la remigration veulent effectivement aller plus loin. Jean-Yves Le Gallou, qui vient d'y consacrer un livre entier, « Remigration pour l'Europe de nos enfants », il défend une politique globale, stopper l'immigration nouvelle, éloigner les clandestins et certains étrangers délinquants, limiter certains renouvellements de titres de séjour, encourager financièrement les départs volontaires et envisager dans certains cas des mesures concernant les binationaux. Son objectif est donc clair, ne plus simplement ralentir l'immigration, mais inverser durablement les flux. Et cette réflexion dépasse Le Gallou, puisque sur Ligne Droite, le philosophe franco-allemand David Engels abordait lui aussi la remigration sous un angle démographique et civilisationnel, celui de la préservation à long terme des sociétés européennes. La question posée est finalement assez simple. L'Europe doit-elle seulement limiter l'immigration ou peut-elle aussi organiser davantage de retours ? Évidemment, toutes les propositions faites au nom de la remigration ne sont pas applicables aujourd'hui, en tout cas en l'état. Les expulsions collectives sont interdites, le principe sacré de non-refoulement s'impose dans certaines situations et les mesures d'éloignement sont encadrées juridiquement. Jean-Yves Le Gallou le reconnaît lui-même puisqu'il défend son fameux jugexit, c'est-à-dire une rupture avec certaines contraintes jurisprudentielles supranationales. Mais c'est précisément pour cela que l'accusation de Merz est aussi grossière. Elle met tout le monde dans le même sac. Expulser quelqu'un en raison de son origine ethnique et éloigner un étranger parce qu'il n'a pas le droit de rester sur le territoire, ce n'est tout simplement pas la même chose. Dans un cas, le critère est technique et dans l'autre, il est juridique. Et le calendrier est assez savoureux. Après les 44% de l'AFD, Merz a même rappelé que 56% des électeurs de Saxe-Anhalt n'avaient pas voté pour elle. Alors certes, mais lorsque votre adversaire frôle les 44% que votre propre parti tombe autour de 17%, expliquer triomphalement que 56% n'ont pas voté pour vous ressemble quand même à une manière particulièrement culottée de commenter une déroute. Donc Friedrich Merz peut donc continuer à sortir les mots les plus terrifiants du dictionnaire. Mais après 44% pour l'AFD, il découvre peut-être surtout une chose. À force de brandir les anathèmes pour éviter le débat, les électeurs allemands finissent manifestement par ne plus les écouter et à choisir le camp qui leur parle vraiment.
Merci beaucoup Maïs.
7h, 10h sur Radio Courtoisie.
Indépendance.
Suivez la ligne droite.
Et on parle maintenant d'écoles et plus précisément des écoles libres. Le hors contrat connaît depuis plusieurs années un véritable essor avec des parents qui cherchent d'autres réponses que celles proposées par l'éducation nationale. Mais ouvrir une école libre reste un parcours semé d'obstacles. Et pour en parler, nous recevons ce matin Anne Coffinier, présidente et fondatrice de Créer son école, qui est avec nous ce matin. Bonjour Anne Coffinier.
Bonjour Magda.
Pour commencer très simplement, Créer son école, qu'est-ce que c'est ? Quel est votre rôle concrètement auprès des écoles ?
Créer son école est une association, loi 1901, qui existe depuis 20 ans et qui est l'acteur de référence aux côtés des écoles complètement libres, qu'on appelle aussi écoles indépendantes, alternatives ou privées hors contrat. Et l'objectif de Créer son école est très simple, c'est de multiplier les écoles libres de qualité, de manière à ce que les familles aient un choix. Et donc notre rôle est très très concret, il s'agit d'une part d'accompagner les créateurs d'écoles, de les aider juridiquement, financièrement, de les conseiller souvent aussi au niveau pédagogique, de les mettre en réseau, de ne pas les laisser seuls, parce que quand on est un fondateur d'école indépendante, on peut être très seul. Et ensuite, de les former leurs professeurs et les défendre, ce qui passe parfois par du contentieux, ce qui passe parfois par un accompagnement, des démarches de type plus administrative. Donc faire en sorte qu'elles se développent dans de bonnes qualités pour offrir vraiment la meilleure éducation possible aux familles.
Vous accompagnez des écoles vous accompagnez justement des créations d'écoles, mais vous accompagnez aussi des écoles qui existent déjà.
Tout à fait.
Jusqu'où va justement cet accompagnement ?
Alors, donc, en gros, il faut déjà savoir qu'il y a 2665 établissements en France, donc beaucoup plus que ce que les gens pensent souvent, qui scolarisent à peu près 140 000 élèves. Nous accompagnons les établissements qui nous le demandent et qui sont membres de notre association, puisqu'il y a une adhésion qui fait qu'on s'occupe en particulier des écoles adhérentes. Et donc, qu'est-ce qu'on fait très concrètement? Ben, je vous donne un exemple d'aide qu'on a pu apporter hier. Un groupe d'écoles fait l'objet d'inspections qui s'appellent CODAF, ces inspections où tous les ministères envoient au même moment des inspecteurs, donc des inspections très agressives, très à charge, et qui ont, sont confrontées à des attitudes des inspecteurs qui sont inacceptables. Par exemple, des inspecteurs qui posent des questions tout seuls à une petite fille de 7 ans sur sa vie sexuelle, ou bien si ses parents la forcent à aller à l'église, ou bien si chez elle, elle mange à sa faim. Donc, quand on a, par exemple, on est confronté à des dérives de ce type de la part des inspecteurs, eh bien, il faut réagir. Donc, ces écoles, par exemple, nous ont demandé hier un rendez-vous en urgence, en expliquant la situation et en demandant comment il avait lieu de réagir. Et là, on est en train d'étudier une réponse pénale. Parce que, à l'heure même où on dit qu'il faut absolument préserver les enfants de toute agression pédocriminelle, et évidemment que c'est une urgence, on ne peut pas, dans le même temps, en tant qu'État, donc théoriquement les fameux adultes de confiance, n'est-ce pas, on ne peut pas, en tant qu'État, venir déstabiliser un enfant de 7 ans, puis il y a eu d'autres enfants qui ont été aussi déstabilisés comme ça, sous prétexte de faire une inspection d'une école. Vous voyez ? Donc là, c'est l'exemple type de mon rendez-vous entre 16h à 17h d'hier soir. Voilà. Très concret.
En fait, vous accompagnez également donc, les écoles face aux inspections.
Oui, alors par exemple, quand vous avez une inspection, parfois vous recevez un compte-rendu d'inspection. Théoriquement, c'est tout le temps, mais en fait, les inspecteurs ont tendance à envoyer le rapport que quand il est mauvais, et quand il est bon, ils préfèrent ne rien dire du tout. Donc, quand vous recevez votre rapport, vous avez un délai pour répondre. Et c'est très important de répondre dans les délais et de répondre de manière intelligente, documentée, justifiée juridiquement. Et pour ça, les écoles ne peuvent pas être seules. Et donc, notre service juridique les accompagne, soit en interne, soit en leur recommandant des avocats spécialisés.
Et Créer son école, vous accompagnez également les écoles qui sont sous contrat. Et vous les accompagnez pour ouvrir des classes hors contrat. Donc en fait, il y a du hors contrat dans le sous contrat. Est-ce que vous pouvez nous expliquer cette...
Alors, l'objectif de Créer son école, c'est de développer la liberté scolaire. Et l'esprit de l'enseignement libre, l'esprit de la liberté d'enseignement, il doit souffler partout. En théorie, il faudrait même qu'il souffle dans l'école publique. On en est assez loin, bien même s'il existe une liberté pédagogique à laquelle les professeurs sont très attachés. Donc, ça existe aussi, bien sûr, dans l'enseignement privé dit sous contrat. Et donc, notre rôle à Créer son école, c'est d'aider les réseaux d'enseignement privé sous contrat, et donc notamment l'enseignement catholique, à utiliser ce qui correspond à leur liberté. Il y a un établissement, cet établissement, il est à la fois sous contrat avec l'État, il fait aussi partie du réseau d'enseignement catholique, mais c'est aussi un enseignement libre, un établissement libre, qui relève de l'école libre. Et donc, à ce titre-là, il a des libertés qu'il doit utiliser, qu'il peut utiliser, mais faut-il encore qu'il les connaisse et qu'il les cultive. Donc, notre rôle à Créer son école, c'est de les aider quand ils veulent utiliser ces libertés. Et concrètement, le contrat se passe par classe et non pas par établissement. Donc, on dit, par exemple, je ne sais pas, moi, Stanislas, c'est un établissement sous contrat. Bon, c'est une sorte de facilité de langage. En réalité, ils peuvent très bien avoir, ou demain avoir, des classes hors contrat, puisque c'est par classe. Et aujourd'hui, on a une époque où l'État n'a pas l'intention de passer de nouvelles classes sous contrat. C'est même le contraire, l'État récupère des contrats. Il demande de rendre des moyens financiers, il demande de réduire le nombre de classes financées par l'État. Donc des établissements qui sont pleins, c'est le cas notamment à Paris, qui ont même des listes d'attente, sont obligés de rendre des moyens financiers, donc rendre des postes budgétaires, fermer des classes, parce que l'État leur demande de fermer des classes. Il faut bien voir qu'aujourd'hui, le nombre d'écoles, le nombre de classes sous contrat n'est pas lié à la demande des parents, il est lié au bon vouloir de l'État. Alors, de manière économique, on appelle ça une politique de l'offre, c'est-à-dire que l'État dit « voilà quelle sera l'offre, vous aurez droit à 80% de public, 20% de privé ». Et peu importe les demandes des parents, et peu importe l'état de l'école, peu importe que le public marche moins bien que le privé, c'est comme ça. C'est moi, l'État, qui organise la carte et la répartition public-privé. Mmh. Et donc notre rôle à Créer son école, c'est d'accompagner notamment les établissements privés sous contrat qui veulent utiliser plus leur liberté scolaire et qui veulent donc créer des classes hors contrat pour lutter contre cette réduction imposée par l'État, continuer à accepter des familles, les accueillir, se développer et aussi cultiver des spécificités pédagogiques, éducatives, spirituelles. Imaginez que vous vouliez créer une école spécialisée, une classe avec une spécialité latin-grec renforcée, ou une classe où il y a un atelier d'écriture une heure par jour pour vraiment développer les capacités rédactionnelles et travailler sur l'expression, et ça fait partie de votre projet, ou une classe bilingue, ou une classe spécialisée pour des enfants qui ont un trouble de l'autisme et donc vous allez rajouter ou aménager des choses, et bien dans tous ces cas-là, c'est le hors-contrat qui est la meilleure forme pour développer votre projet.
Et vous parliez justement du fameux 80-20.
Oui.
Est-ce que vous pouvez expliquer un tout petit peu rapidement ce que c'est? Et surtout, oui. Est-ce que pour vous, c'est une bonne idée ou justement c'est une fausse bonne idée, ce 80-20?
Oui, alors donc, en 1984, il y a eu de très grandes manifestations pour lutter contre le projet qu'avait le président Mitterrand, que l'enseignement privé soit absorbé par l'enseignement public. Et donc, à la suite de ces grandes manifestations qui ont mis des millions de gens dans la rue, donc qui est très très importante en matière de défense des libertés dans la culture politique française, à la suite de ces grandes manifestations, il y a eu une sorte de compromis politique qui a été trouvé, et on s'est dit que le partage entre le public et le privé sous contrat serait égal à ce qu'il est en 1984, c'est-à-dire à l'époque, il y avait 80% d'enfants dans le public et 20% dans le privé sous contrat. Donc il y a une sorte de gel des frontières et il y a une sorte de totem qui n'a aucune base juridique. Hein. De ce totem, c'est que il n'y a pas de guerre scolaire si on maintient cet équilibre 80-20. Alors aujourd'hui, vous avez des gens qui ont plutôt tendance à accepter cette réalité-là et qui prennent leur parti du fait que oui, il y a un secteur privé sous contrat financé par l'argent public. Et puis il y a d'autres personnes comme par exemple le Grand Orient, qui fait partie de donc la loge maçonnique du Grand Orient, ou comme le CNAL aussi, enfin une partie du CNAL, Comité National d'Action Laïque, qui n'accepte pas l'idée qu'il y ait un secteur privé subventionné. Et donc qui continue à militer pour qu'il y ait un monopole public éducatif sans secteur privé. Donc dans ce contexte-là aujourd'hui, on a un recul démographique, donc la population scolaire diminue fortement, puisque, par exemple, en 10 ans, on va perdre 1,7 million d'élèves. Donc, dans le cas de ce recul démographique, l'État a prévu de fermer des classes. Et la question, c'est quelles classes on ferme? Va-t-on fermer dans le public ou dans le privé? Et selon quelle répartition? Et donc là, c'est un débat politique qui mériterait d'être posé. Ceux qui veulent garder le 80-20 disent on va appliquer le 80-20. Donc, ça veut dire qu'en pratique, dans bien des endroits, on va fermer des classes publiques qui sont à moitié vides, et on va aussi fermer des classes privées qui sont pleines. Et dans ce cadre-là, on dira qu'on fait du 80-20. Mais en réalité, on ne fait pas du 80-20. Vous voyez, puisqu'on ferme d'un côté des classes vides et on ferme de l'autre côté des classes pleines. Voilà, donc ça, c'est la règle, entre guillemets. Mais ça ne veut rien dire, parce que ce fameux 80-20, c'est une réalité qui est calculée au niveau national. Et lorsque vous descendez sur le territoire, par exemple au niveau d'une commune, au niveau d'un département, vous vous rendez compte qu'il y a des zones où il n'y a quasiment pas de privé et des zones où il y a 50% de privé, comme par exemple en Bretagne. Donc, ce fameux ligne de conduite du 80-20 est aujourd'hui assez inopérante. Pour autant, elle a pu aider à une certaine époque, par exemple l'enseignement catholique privé sous contrat, à garder son réseau à une époque où le rapport démographique ne lui était pas favorable. Mais aujourd'hui, dans le contexte actuel, il a plutôt tendance à gêner l'enseignement privé catholique et les autres réseaux privés sous contrat. Mais comme c'est un peu technique, il n'y a pas de base juridique, c'est assez difficile de faire comprendre, notamment dans un débat politique, cette réalité. Mais il faut noter avec intérêt que Bruno Retailleau a demandé, dans son programme politique, de supprimer le 80-20. Et donc, de faire beaucoup plus de place à la demande des parents, puisqu'après tout, les parents, ce sont des citoyens qui ont bien le droit quand même, parmi leur liberté politique et leur liberté de parents, et liberté religieuse, d'association, d'éducation, ils ont bien le droit de faire ce choix, de choisir l'école de leurs enfants. Et aujourd'hui, on est dans une situation où ce droit leur est dénié. On leur dit, c'est nous, État, qui allons choisir pour vous si vous allez pouvoir mettre votre enfant dans le public ou dans le privé. Déjà, je rappelle que dans le public, il y a une carte scolaire obligatoire. Donc déjà, vous ne choisissez pas votre école précise. Vous avez un déterminisme géographique. Selon où vous habitez, vous aurez droit à une bonne école, une mauvaise école. Et puis, dans le privé, eh bien, vous pouvez y accéder que si vous avez les moyens financiers et si éventuellement vous avez quelques connexions, parce qu'il n'y a plus beaucoup de place. Et puis, si il y a de la place, tout simplement.
Alors juste, nous en revenir sur un instant, juste pour vous rappeler, chers auditeurs, nous sommes actuellement avec Anne Coffinier, qui est présidente fondatrice de Créer son école. Nous aurons la chronique dans 5 minutes, dans 6 minutes précisément, à 7h30, la chronique d'Arthur de Vatrigan, suivie de l'entretien avec Hervé Carès au sujet de l'Ukraine, quel jeu joue l'Union européenne. Mais pour revenir sur ce que vous disiez, Anne Coffinier, vous parliez justement de la place politique au sujet des écoles hors contrat. Vous parliez justement du Grand Orient de France qui en a parlé. C'est pratiquement un sujet même dans les campagnes présidentielles, alors que c'est quand même une minorité des écoles. Comment ça se fait que ça prenne autant de place alors que finalement, il y a des écoles hors contrat dans tous les panels politiques. Tout le monde est concerné, tout le monde a des écoles hors contrat, entre guillemets. C'est pas que, comme on en a l'image, c'est pas que la droite ou que les catholiques. Comment ça se fait que ce soit autant en contradiction alors que finalement, ça touche tout le monde ?
Alors, il est clair que les écoles privées hors contrat ont une sorte de rôle, de signe de contradiction dans le paysage éducatif français. Alors qu'elles ne représentent qu'1% des élèves, donc rien en soi. Il se trouve qu'elles sont en forte croissance, puisqu'il y a eu 85 ouvertures cette année, à un moment où l'État ferme massivement les classes dans le public et dans le privé sous contrat. Donc, il y a un côté contracyclique, il y a un côté où nous nous développons quand les autres se replient. Donc, ça déjà, ça interroge beaucoup. En plus de ça, les écoles hors contrat n'ont aucune subvention publique. Et dans les écoles hors contrat, les parents sont très importants. Et on voit bien qu'aujourd'hui, il y a un bras de fer dans le public, et un peu dans le privé sous contrat, mais surtout dans le public, il y a un bras de fer très regrettable, qui d'ailleurs est au cœur des problèmes, entre les familles et l'institution. De plus en plus, vous avez une institution qui fragilise la légitimité des familles dans l'école publique, et qui finalement les charge de tous les maux. Je vous donne un exemple qui est vraiment choquant. Vous avez eu les résultats PISA il y a 2 jours, et le ministre de l'Éducation nationale, Édouard Geffray, a fait un commentaire. Et dans ce commentaire, il donne 3 causes de cet effondrement dramatique, puisqu'on a perdu, en 3 ans de temps, on a perdu l'équivalent d'une année scolaire d'apprentissage. Donc là, c'est une débâcle, c'est une déroute, il n'y a plus de termes pour expliquer la situation de l'école publique. Enfin, je dis école publique parce qu'évidemment, sur les statistiques, elles pèsent massivement, puisqu'il y a aussi les privés sous contrat qui sont intégrés dans les statistiques, mais comme ils ont respecté la proportion, c'est quand même l'école publique qui donne le niveau de classement. Et donc, comme explication, il a dit qu'une des 3 raisons, c'était le recul de l'investissement des parents qui s'intéressaient moins aux études des enfants, qui passaient moins de temps, etc. Il faut quand même oser le faire. Quand vous avez un système qui s'effondre, d'expliquer qu'en fait, c'est la faute des parents. Donc, la situation actuelle est une situation où ce qui fonde l'essor des écoles hors contrat est vraiment une source de remise en cause idéologique, en réalité, du logiciel de compréhension de la réalité scolaire en France. Une école hors contrat, ce sont des gens qui, au lieu de se plaindre et d'attendre la cistana de l'école publique, prennent les choses en main, fondent, entreprennent, assument leurs responsabilités de parents et d'acteurs de la société civile et agissent concrètement sur le terrain. Donc, on est quand même dans une société où le politique ne sait que promettre des subventions, promettre des réformes où l'État va intervenir. Et dans les écoles hors contrat, c'est le contraire qui se passe. Les familles disent « qu'est-ce que je peux faire pour mon pays ? Qu'est-ce que je peux faire pour mon enfant ? Je m'organise, je le fais. » Et ça, c'est insupportable, politiquement.
Malheureusement, il nous reste qu'une minute trente, Anne Coffinier. Donc rapidement, en une minute, vous parliez la dernière fois à notre antenne du cas du prix Tanné et vous avez c'est un combat que vous avez gagné en première partie. Quelle est la suite quelles sont les prochaines étapes et surtout est-ce que c'est un cas qui est isolé ?
Alors le prix Tanné, c'est qu'on s'était rendu compte que le lycée militaire du prix Tanné, donc à la Sarthe, avait refusé officiellement et totalement les élèves issus des écoles hors contrat. Et il l'avait écrit noir sur blanc sur Parcoursup. Donc, nous avons réagi, nous avons pu obtenir une enquête, une commission de révision des dossiers des élèves qui avaient été mis de côté, à savoir 54 élèves, une réintégration des meilleurs d'entre eux, ou ceux qui ont été jugés les meilleurs d'entre eux. Et pour maintenir la pression et attendre que ça soit expliqué noir sur blanc que désormais on ne pourra plus jamais discriminer un enfant sur la base de son origine scolaire. Mmh. Nous avons donc une série de recours juridiques en cours où nous espérons avoir une heureuse issue et nous attendons la sortie de la circulaire qui nous a été promise pour cette semaine. Peut-être que l'État va prendre un peu de retard, mais cette circulaire va donc rappeler aux établissements, aux six lycées de la Défense, qu'il n'est pas possible de mettre de côté des élèves issus du hors contrat, au regard donc de leur origine scolaire, et que la seule chose qui compte, c'est le mérite scolaire.
Mmh, bah merci beaucoup, Anne Coffinier.
Merci à vous, Brida.
On n'a plus le temps, mais on vous recevra une prochaine fois pour en parler.
Merci.
Merci
Bonne
beaucoup.
Journée à tous.
Ligne droite avec Richard de Sèze.
Dans mon casque. Bonjour chers auditeurs, à nouveau, merci d'être avec nous pour ceux qui viennent de nous rejoindre, merci d'être restés avec nous pour ceux qui sont là depuis le début. Il est 7h30 et c'est le moment d'un appel au don avec Franck, non Arnaud.
Oui, oh, c'est pas l'un, c'est l'autre. Effectivement Richard, nous avons besoin de votre soutien financier pour faire durer dans le temps cette belle aventure de Radio Courtoisie qui fêtera bientôt ses 40 ans. Alors je vous invite à nous faire des dons en ligne sur soutenir.rc.fr et puis également d'adresser vos chèques à Radio Courtoisie, 61 boulevard Murat, 75 016 Paris.
Eh bien, merci beaucoup. À 7h40, nous recevrons Hervé Carès pour nous parler de l'Ukraine, quel jeu joue l'Union Européenne. Mais tout de suite, c'est la chronique d'Arthur de Vatrigan.
Ligne droite.
Bonjour Arthur.
Bonjour Richard. Alors, dans le concours l'épine des idées à la con de cette présidentielle, je demande Bruno Le Maire, parce que l'ancien ministre a trouvé une solution à la crise de l'école, en faire entrer les enfants dès un an. Alors, idée assez lumineuse évidemment, l'école peine à remplir sa mission, on va lui confier encore plus tôt, elle ne parvient pas à transmettre suffisamment, on allonge la durée de séjour. Alors avant de se demander ce qui ne fonctionne pas dans la machine, l'ancien ministre dit « on va mettre tous les bébés ». Alors, soyons justes, parce que j'ai quand même essayé de réfléchir et de trouver une raison à cette idée magnifique de Le Maire. Tous les enfants n'arrivent pas avec le même vocabulaire à l'école à 3 ans. Certains grandissent entourés de livres, de conversations, d'histoires, d'autres d'écrans évidemment, puis d'autres, la nature fait qu'ils parlent plus tard et qu'ils marchent plus tôt, et pour d'autres inversement. Mais entre développer le langage de l'enfant et l'envoyer à l'école à un an, il manque quand même quelques explications. Alors déjà technique, parce que qui va changer les couches, qui va donner les repas, qui va accompagner les siestes, avec quel personnel. Parce que je rappelle qu'en crèche collective, l'encadrement, c'est un adulte pour 5 ou un adulte pour 8. Donc c'est-à-dire quoi, on va avoir des classes de 5 ou des classes de 8, ce qui serait assez amusant. Donc parce qu'on peut changer l'enseigne de la crèche, ça ne fera pas une révolution pédagogique pour autant. Et puis, bon, il y a quand même une petite affaire du périscolaire qui est passée entre-temps. Donc déjà, un enfant qui parle, on ne croit pas. Donc un enfant qui ne parle pas, ce qui arrive souvent quand on a un an, ça va être un peu compliqué. La confiance des parents, ils en prennent un coup supplémentaire. Mais ce qui est intéressant, évidemment, dans cette idée à la con, c'est le réflexe qu'elle révèle, l'idée derrière, l'idéologie, comme d'habitude. Pourquoi faut-il que la solution soit toujours, on confie encore plus à l'État ? Pourquoi on commence jamais par se demander, on va peut-être essayer d'aider un peu les familles à remplir leur rôle, qu'une mère raconte des histoires à son enfant, que ce n'est pas forcément une anomalie, qu'un père apprenne des mots aussi, ça peut être pas mal. Mais, parce que comme des parents avant que l'école arrive. Mais voilà, la conception de la politique, c'est que tout ce qui ne passe pas par l'État devient suspect. La culture familiale, c'est un conditionnement, la conviction religieuse, c'est une emprise, la tradition, c'est un obstacle à l'émancipation. Mais même la transmission administrée par contre par le ministère, là, c'est une libération, évidemment. Alors, on se rappelle tous de cette merveilleuse déclaration de Vincent Peillon, alors ministre de l'Éducation nationale, en 2012, qui expliquait qu'il voulait arracher l'élève à tous les déterminismes, notamment familiaux. Arracher, quoi. C'est comme le truc qu'on dit quand on parle de secte ou de prison, généralement. Donc, mais là, on ajoute la famille, parce que, comme chacun sait, la famille emprisonne, l'État vous libère, c'est beau comme l'État totalitaire. Alors, mais ce qui est amusant, c'est que quand on écoute la réaction du ministre actuel de l'Éducation nationale à l'explication de la chute de la France dans les classements PISA, lui aussi, il met la famille dedans, quoi. C'est aussi à cause de la famille, évidemment. Donc, évidemment, la famille a une idéologie, l'État n'en a pas. Un ministre n'administre rien, le programme est fait naturellement, comme ça, ça descend du ciel, c'est une parole incréée qui va inculquer la vérité. Chez nous, les déterministes, c'est dans l'État, c'est la raison. Alors, on a quand même de la chance d'être gouverné des gens qui sont influencés par rien. Donc, évidemment que l'école doit ouvrir des horizons, elle doit permettre à un enfant de découvrir ce que ses parents ne peuvent pas tout lui apprendre, c'est sa grandeur. Mais élargir un héritage, ça ne veut pas dire on va commencer par le confisquer. C'est un peu mal barré sinon. Alors, évidemment que l'enfant n'est pas la propriété des parents, mais c'est encore moins une matière première à mouler l'État. Alors, je ne prête pas encore à Bruno Le Maire son envie de dictature des biberons, mais il y a quand même ce réflexe premier de l'institution échoue, bah, on va élargir son domaine de compétences. L'État rate une mission, bah, on va lui refiler une, et puis il va garder celle qu'il avait déjà. Les familles vont mal, on connaît la solution, l'école va réparer, la société est violente, c'est l'école qui va pacifier, les écrans dévorent l'attention, et bah, on va faire des sensibilisations à l'école. Les crèches manquent de place, bah, là, hop, à un an, on vous fout à l'école. Donc, bon, le problème, c'est qu'il y a les classements PISA qui sont tombés en même temps que la déclaration de Bruno Le Maire. Et là, on s'approche quand même dangereusement du score de la Tanzanie. Donc, ça commence à devenir compliqué à justifier, même si je rappelle, le ministre de l'actuel a expliqué que c'était la faute de la famille. Alors, Bruno Le Maire avait expliqué, il y a le niveau, classement PISA le justifie, puis il y a les inégalités. C'est pour ça qu'on va foutre les enfants à un an. Donc le problème, c'est que on commence à bien comprendre que l'espèce de désir égalitariste qui est meilleur juste Ferry à côté, c'était vraiment le prince des inégalités, parce que les luttes contre l'égalité aujourd'hui, c'est quand même ce qui favorise le plus les inégalités. C'est tout le monde l'a vu. Voilà, si vous êtes pauvre, vous êtes dans la merde parce que vous aurez que l'école publique. Si vous êtes riche, vous pouvez avoir un prof particulier. Mais c'est le problème de l'égalitarisme, c'est qu'on ne voit pas ça parce qu'on surveille uniquement la distance entre les élèves plutôt que le chemin parcouru par chaque élève. Donc, ça serait bien qu'avant de vouloir démocratiser tout ça, on donne accès aux mêmes chances, c'est-à-dire que chaque élève ait le même prof, le même livre, la même exigence. Non, là, il faut que tout le monde soit nul, c'est le principe. Mais le problème, c'est que, encore une fois, comme l'État cesse de donner à tous, ceux qui ont les moyens dans les familles, ils achètent. Ce qui permet à des gens aisés de garder l'exigence et aux pauvres, eux, ils gardent que le discours élitiste, anti-élitisme et donc égalitaire à la con. C'est une politique sociale assez raffinée, je vous l'accorde. On combat les privilèges dans le discours, mais on laisse au marché le rattrapage. C'est quand même assez sympa. Alors après, on connaît tous évidemment cette connerie du collège unique qui a fait croire à tout le monde qu'un excellent menuisier, c'était un universitaire raté. Forcément, ça donne pas envie d'être menuisier. Mais peut-être que ce sera le dernier à pas être remplacé par l'IA. Alors je donne pas cher de la peau aux universitaires, surtout quand on voit leur niveau, en tout cas ceux qui sortent des écoles aujourd'hui. Mais je voudrais quand même ajouter deux, trois trucs sur les profs, parce qu'on dit oui, mais les profs, c'est difficile pour eux, patati patata, c'est vrai. Mais il faut quand même rappeler que les profs sont quand même majoritairement de gauche. C'est-à-dire que toutes les études le montrent, toutes les études le disent, et puis ils passent leur temps à faire des déclarations. Et puis si vous avez un doute, rappelez-vous qu'Arcide Assoudé est prof. Voilà. Et c'est quoi un type de gauche ?
Ça, c'est bas. C'est bas.
C'est bas, mais c'est vrai. Après, je pourrais dire la même chose pour les universitaires avec Sandrine Rousseau. Un type de gauche, c'est un type qui déteste tellement le monde tel qu'il est qu'il veut absolument le changer. Or, quelle est la finalité de l'école ? C'est pas de produire l'égalité sociale, c'est pas d'inculquer à un enfant des théories nouvelles et surtout meilleures que les précédentes. C'est pas une institution politique ou idéologique, encore moins une église. Elle a une seule finalité, c'est de faire connaître et découvrir et comprendre le monde à l'enfant tel qu'il est. Bon, l'école est dégradée, on a transmettre, on le voit, mais parce qu'en fait, les adultes veulent plus assumer la responsabilité. Alors, ils disent... À quoi bon passer ces héritages de souffrance et d'ordures c'est la culpabilisation, on la connaît. Le problème, c'est que les sociétés désespérées produisent souvent des écoles sauvages. Donc la seule question qu'il faut se poser, c'est pas à quel âge on fout un enfant à l'école et quel programme merveilleux sorti d'un taré pédago on va inculquer, c'est est-ce que les adultes aiment assez ce monde pour assumer la responsabilité ? Parce que la question de l'école est directement liée à la légitimation de la culture, à la fierté de soi, évidemment, en tant que culture, et puis à la volonté donc collective de durer. Parce que, encore une fois, une société qui se morfond dans la culpabilité historique et le déni de soi, il ne comprend plus vraiment l'exigence de transmettre. Et on ne repère pas une bonne école au diplôme des profs, ni à son organisation merveilleuse, à sa cantine bio, mais à la ferveur des enseignants à transmettre. Et qui vient de ce qu'ils croient, de leur propre culture, ou en tout cas en leur propre culture. et se traduit par les capacités qu'il déploie pour exiger justement l'effort à leur élève. Comme l'avait écrit la philosophe Chantal Delsol, on ne peut pas transmettre un monde si on ne l'aime pas. Or, la gauche n'aime pas le monde, et la majorité de la gauche se retrouve chez les profs.
Eh bien, merci beaucoup de votre explication, effectivement, des lumineux propos de Bruno Le Maire et de tous les développements que ça implique pour l'éducation des enfants et surtout l'avenir de la France. Merci et à la semaine prochaine, Arthur.
7h, 10h sur Radio Courtoisie, suivez la ligne droite.
Et nous allons recevoir donc dans un instant Hervé Carès, ancien militaire et surtout expert en gestion de crise, qui est un fin observateur de la situation géopolitique mondiale et principalement, en tout cas plutôt ponctuellement, de la manière dont la guerre se passe en Ukraine. Bonjour Hervé Carès.
Bonjour.
Moi c'est Richard.
Oui, Richard. Le réveil est difficile.
Merci beaucoup d'être avec nous si tôt matin. L'Union européenne a accordé à Kiev donc, la dérogation donc, pour que l'Ukraine puisse acheter des missiles Patriot. Voilà, ça, c'était il y a 2 jours. La Russie est en train de perdre la guerre, assurée Ursula von der Leyen il y a 2 semaines. Et donc, 8 milliards d'euros sur le prêt de 90 milliards d'euros accordés par l'Union européenne à l'Ukraine ont déjà été versés pour la défense. Il y a eu un partenariat industriel dans le domaine de la défense entre l'Union européenne et l'Ukraine pour produire des drones. Donc on sent que l'Union européenne a décidé d'une part que l'Ukraine fait partie de l'Europe. Hein. Je cite par exemple Enna Virkkunen, vice-présidente exécutive chargée de la souveraineté technologique, de la sécurité et de la démocratie pour la Commission européenne. L'Ukraine fait partie de l'avenir de l'Union, l'avenir de l'Europe et de sa sécurité en rapprochant l'Ukraine de notre écosystème commun d'innovation en matière de défense et en lançant le pacte relatif aux drones. Nous transformons la solidarité en action concrète. Donc on sent que l'Union européenne veut poursuivre la guerre.
Oui, alors que l'Union européenne veuille poursuivre la guerre alors qu'elle est en difficulté, très grande difficulté financière et économique au regard des conséquences de cette guerre, notamment après avoir coupé les liens énergétiques avec la Russie, c'est sans doute un fait, mais dans quel but? Quel est le but? Parce qu'on a vraiment l'impression qu'on alimente une guerre dans la durée, au profit d'un gouvernement ukrainien qui lui-même se trouve dans une impasse stratégique, sur le front terrestre, mais également sur la bataille des frappes dans la profondeur, puisqu'ils ont déclenché un ultimatum contre la Russie, un ultimatum de 40 jours, qui a été déclenché il y a un peu plus d'un mois, et qui, de fait, s'est révélé contre-productif, et même s'est retourné contre les instigateurs, puisque ça a complètement désinhibé les Russes par rapport à des cibles qui, jusqu'à présent, ils ne frappaient pas, notamment des cibles purement économiques, comme les capacités d'exportation de l'Ukraine en ce qui concerne ses productions agricoles. Je pense en particulier au blocus de fait de tous les ports de la mer Noire, qui est le résultat des frappes russes sur ces installations portuaires. Donc il y a pas vraiment d'objectif européen stratégique dans cette guerre depuis le début. En février 2022, ils ont épousé la stratégie américaine qui consistait à asseoir un découplage entre la Russie et puis l'Union européenne. Ensuite, ils ont épousé la stratégie ukrainienne qui de fait était un pays agressé et qui répondait à l'agression en se défendant, mais jamais il y a eu de vision stratégique propre de l'Union européenne, et notamment des grands pays de l'Union européenne, au regard de leurs intérêts. Et chemin faisant, les intérêts justement de ces pays-là ont été très sérieusement agressés, à commencer par les intérêts allemands et même franco-allemands avec la destruction des gazoducs Nord Stream. Et rappelons que en l'état de l'enquête, les Allemands pointent une responsabilité ukrainienne. Donc c'est quand même assez paradoxal de constater que la plus grosse destruction d'intérêts vitaux européens, en l'occurrence franco-allemande, serait, ou est plutôt d'ailleurs, puisque ils sont plutôt affirmatifs quand même les Allemands, serait la conséquence d'une action ukrainienne.
Alors, on voit bien effectivement que d'un côté, pour ce qui est des purs intérêts économiques de l'Union européenne, perdre l'accès à l'énergie russe au profit d'une énergie américaine a surenchéri le coût de l'énergie, que la façon dont l'Union européenne finance l'Ukraine à perte, puisque donc il n'y a aucune chance que l'Ukraine rembourse, est effectivement là aussi une curieuse décision. On voit que les États-Unis continuent d'être partie prenante, mais surtout qu'ils ont d'une certaine manière mis en sécurité leurs investissements de défense avec les accords qui ont été passés entre Donald Trump et Volodymyr Zelensky. Donc il n'y a aucun intérêt économique à ce que l'Union européenne soutienne l'Ukraine. En revanche, il y a évidemment un intérêt politique, puisque la Russie agresse l'Ukraine. La Russie entend conquérir une partie de l'Ukraine, alors qui ne fait pas partie de l'Union européenne, mais voilà, qui est cette espèce de zone tampon. Et on comprend que l'Union européenne et les autres pays qui ont eu à subir avec l'Union des républiques socialistes soviétiques l'influence néfaste de la Russie pendant plusieurs dizaines d'années se disent voilà, il faut quand même que Vladimir Poutine apprenne à rester chez lui.
Oui, alors ça, de toutes les manières, si on analyse ce conflit avec deux critères, le critère de l'intérêt national pour les pays européens, notamment pour la France, et le critère du respect du droit international, il est évident que sur le critère du droit international, les Européens ont raison de réagir. Le problème, c'est que si on fait l'historique en fait, de ce conflit, on peut constater qu'entre février 2022 et mars 2022, les Ukrainiens veulent négocier et les Russes veulent négocier une fin de conflit sur des conditions qui se rapprocheraient d'un Minsk II imposé par la force par la Russie sans qu'il y ait d'annexion de portions du territoire ukrainien, qu'à partir de 2023, les Russes revendiquent 4 oblasts du territoire ukrainien qu'ils ont l'intention de conquérir, qu'après l'offensive de Koursk de 2025, les Russes revendique la mise en place d'une zone de tampon dans la région de Kharkov et qu'aujourd'hui, en 2026, il ne serait pas étonnant que les Russes rajoutent des revendications à toutes les revendications qu'ils ont faites sur le plan territorial. Donc, malheureusement, plus le conflit dure, plus les revendications russes augmentent et surtout, l'effet de la stratégie d'attrition que les Russes conduisent depuis globalement novembre 2022 sont terribles aussi bien pour l'armée ukrainienne que pour l'État ukrainien et son peuple, son économie et ses infrastructures énergétiques, mais également par effet collatéral, puisque les Européens sont très impliqués dans ce conflit, sur les Européens et les économies européennes.
Alors, effectivement, donc d'un point de vue économique, on voit bien que on n'y est pas. L'Ukraine est capable de nous inonder de produits à bas prix. Enfin, l'Ukraine, les personnes estampillées Ukraine nous inondent de produits à bas prix, comme les poulets et les œufs. Et on est en train de se ruiner pour eux. Revenons quand même sur la conduite de la guerre. D'un point de vue politique, vous le soulignez, voilà, la Russie a pénétré dans un espace qui n'est pas le sien, qui est à proximité du reste de l'Union européenne. Des pays s'inquiètent. Dans le récit qu'on nous fait de cette agression, qui dure depuis 4 ans et demi, on entend de plus en plus l'idée que, bien sûr, l'Ukraine n'est qu'une étape et que la Russie, cette grande puissance qui n'a réussi qu'à bouffer 20% du territoire de l'Ukraine pour le moment, sans même d'ailleurs sécuriser, si j'ose dire, cet investissement militaire, serait capable d'aller beaucoup plus loin et avec un drone par-ci et un drone par-là, un jour en Moldavie, le lendemain en Allemagne, en fait, c'est toute l'invasion de l'Europe qui est prévue. Et est-ce que ce récit est vraisemblable eu égard aux forces actuellement en présence ?
Non, je pense qu'il y a une grande confusion, enfin, qui est à mon avis alimentée et volontaire, entre ce que représente la Russie actuellement et ce que représentait anciennement le pacte de Varsovie. Le pacte de Varsovie, c'était une alliance d'États, d'ailleurs c'est tous les États qui faisaient partie du pacte de Varsovie ont rejoint l'OTAN, et la Russie a une problématique géopolitique qui est totalement différente de celle du pacte de Varsovie, puisqu'il n'y a pas de messianisme politique. derrière. Le sujet qui impacte actuellement la stratégie russe, c'est tout simplement une vision sécuritaire de leur espace et également une protection des populations d'origine russe qui seraient implantées dans les ex-républiques de l'Union soviétique. Alors notamment, lorsque l'on parle de l'Ukraine, il y a bien sûr toutes ces populations russes qui se trouvaient dans le Donbass et qu'on peut retrouver ailleurs, notamment en Géorgie et dans d'autres républiques de l'ex-Union soviétique. Donc c'est une problématique qui est propre à la Russie telle qu'elle est maintenant, avec une vision des dirigeants actuels qui cherchent à protéger les approches de l'espace de la Fédération de Russie. C'est une vision qui est propre à chaque État. En toute logique, les États-Unis sont également très très sourcilleux de leurs frontières et du positionnement géopolitique et géostratégique des pays à leurs frontières. Il suffit d'observer ce qui s'est passé dans les années 60 et 70 en Amérique du Sud et sinon, de manière plus proche, les relations que les États-Unis peuvent avoir avec le Mexique.
On se retrouve donc aujourd'hui avec des récits antagonistes sur la manière dont la Russie elle-même va ou pas agresser l'Europe, des inquiétudes, aussi des conséquences, si j'ose dire, amusantes, comme le fait que la Finlande, État démocratique, construise elle aussi un mur à la Trump entre ses frontières et celles de la Russie pour éviter l'afflux migratoire russe qui serait une arme de déstabilisation massive. Et donc là, on entend assez peu les défenseurs des droits de l'homme parler de ce mur finlandais. La question aussi qui se pose, c'est aujourd'hui, quelles sont les chances de la Russie dans cette invasion de l'Ukraine? Vous avez souligné tout à l'heure qu'il y a des revendications territoriales de plus en plus importantes. On a l'impression que la ligne de front est gelée. La Russie va-t-elle pouvoir avancer? L'hiver arrive. Qu'en est-il des espérances de la Russie de garder ses oblasts, de garder la Crimée, etc.?
Alors, de toute manière, comme je l'ai dit, la Russie, dans cette guerre, met en œuvre une stratégie d'attrition qui est une stratégie qui historiquement a été développée par un penseur russe qui est le général Zetchine. Et on est tout à fait dans cette logique stratégique russe dans la mesure où elle poursuit l'épuisement de l'adversaire dans le temps. Alors, lorsqu'on regarde la situation du front terrestre, je parle bien du front terrestre actuellement, contrairement à ce qui s'est dit pendant l'été avec le pseudo-retournement de situation en faveur des Ukrainiens, la pression russe est constante, et notamment sur deux points, au nord sur Slaviansk et Kramatorsk, et au sud sur la zone de Zaporijja. Alors dernièrement, il y a eu une contre-offensive ukrainienne victorieuse sur la zone de Liman, qui était une zone qui était également disputée. Mais comme à leur habitude, lorsque les Russes sont mis en difficulté, ils reculent. Et une fois qu'ils ont reculé, ensuite, sur les zones qui ont été reconquises par les forces armées ukrainiennes, ils font jouer leurs appuis-feu, c'est-à-dire toutes leurs capacités de feu qu'ils ont à disposition, que ce soit les drones, l'artillerie, mais également l'aviation avec les fameuses bombes guidées. Planante guidée, ce qui fait qu'en fait, malheureusement pour les Ukrainiens, souvent, cette portion de territoire qui est reconquis se transforme en kill zone, en fait, et ça participe à la stratégie d'attrition russe, d'attrition des forces ukrainiennes. En l'état, en Ukraine, il y a d'énormes difficultés, aussi bien au plan politique qu'au plan militaire. Il suffit d'observer ce qui s'est passé cet été dans les cercles de pouvoir ukrainien, avec le limogeage du ministre Fedorov, ensuite le limogeage du général Sirski. Je rappelle, le général Sirski, malgré tout ce qui a été dit sur lui, c'est le général qui a permis au front ukrainien de tenir entre l'évacuation de Koursk, des territoires conquis à Koursk, de manière d'ailleurs assez catastrophique pour l'Ukraine, puisqu'ils ont perdu dans cette opération leur réserve stratégique, leur seule réserve stratégique. C'est grâce au général Sirski que le front a tenu jusqu'à présent. Et dernièrement, nous avons assisté au cœur de Kiev entre un duel par arme à feu entre des forces du SBU et du GUR. Donc, une situation quand même qui est très, très, très compliquée actuellement en Ukraine et qui montre d'une certaine manière un délitement du gouvernement et des forces au pouvoir en Ukraine. Parallèlement, le fait d'avoir changé la tête politico-militaire de la conduite de la guerre à un moment qui était plutôt critique n'arrange pas forcément les opérations ukrainiennes au plan stratégique. Alors si j'en reviens au front terrestre, il y a vraiment une zone qu'il faut, à mon sens, observer de manière assez précise, c'est la zone de Zaporijjia, parce que c'est dans cette zone qu'à l'été 2023, les Ukrainiens avaient cherché à percer en direction de la Crimée, et très, très clairement, dans cette zone-là, si les Russes arrivent à percer jusqu'au Dniepr, ça pourrait sceller la fin de cette guerre.
Alors, quand vous dites si les Russes y arrivent, alors à votre avis, et bien sûr, évidemment, on ne va pas non plus se lancer dans la politique fiction ou la guerre fiction, les Russes ont-ils une bonne chance de percer? Parce que, voilà, malgré tout, on a l'impression qu'entre deux pays si différents par la taille, par l'armement, par le nombre de combattants, que les Russes continuent à être à la peine en Ukraine.
En fait, ce n'est pas que les Russes sont à la peine, c'est qu'ils cherchent à conduire une guerre sans que ça ait un impact important sur le fonctionnement de la Russie et notamment sur le fonctionnement de l'économie russe. C'est pour cela que, contrairement à ce qui se dit, l'économie russe n'est pas en économie de guerre. De mémoire, on doit être à peu près en dessous de 8% du PIB qui est dévolu à cette guerre, et simplement une montée en puissance du complexe militaro-industriel. Donc le but politique, la stratégie globale des dirigeants russes au plan politique, c'est justement d'éviter de fragiliser le fonctionnement de la Russie au plan économique, mais également au plan sociétal. Un des centres de gravité russes, c'est justement cette cohésion entre le peuple et ses dirigeants, et c'est d'ailleurs un des centres de gravité qui avait voulu être attaqué lors de l'opération de Koursk ukrainienne, de manière à amener le peuple russe à se poser des questions, mais également lors de l'opération de 40 jours, l'ultimatum de 40 jours déclenché par le président Zelensky, pour amener également le peuple russe à se poser des questions au regard de cette guerre.
Alors, quand Ursula von der Leyen déclare que la Russie est en train de perdre la guerre qu'elle a déclenchée, donc citation, et elle réplique en ciblant les civils et les infrastructures civiles, elle-même fait le pari donc, que la Russie va perdre la guerre. Ça fait partie du récit de reconquête dont elle a besoin et dont a besoin l'Europe pour justifier le soutien à l'Ukraine, ou ça peut faire partie aussi d'analyses partagées par des stratèges?
Le problème, c'est que dans ce conflit-là, c'est un conflit qui est vécu de manière existentielle par les Russes, existentielle par les Ukrainiens, mais pas existentielle par les Européens. Il est impossible pour un citoyen allemand, un citoyen français, un citoyen italien, d'avoir une vision existentielle de ce qui se passe dans cette guerre. Qu'il y ait, comme on l'a dit précédemment, un sujet quant au respect du droit international, c'est évident. Mais il n'y a pas d'enjeu existentiel pour l'Europe. Par contre, il y a une manipulation, une instrumentalisation de ce conflit au plan européen pour aller à marche forcée vers un système européen fédéraliste.
Alors, et ce système européen fédéraliste, on voit bien effectivement que l'Union européenne est en train de s'attribuer des compétences qu'elle n'est pas censée avoir, notamment en matière de défense européenne. Est-ce que le véritable danger pour l'Ukraine n'est pas d'être instrumentalisé justement par les fédéralistes?
Et c'est justement en fait le sujet. Lorsqu'on écoute Madame Loiseau, qui est un des chantres de cette position très très belliciste des Européens, on peut très bien s'interroger, puisque avec des amis comme Madame Loiseau, les Ukrainiens, d'une certaine manière, n'ont pas besoin des Russes. Ce que je veux dire, c'est que depuis le début de cette guerre, plus la guerre dure, plus les exigences russes sont importantes, notamment au plan territorial, comme on l'a dit précédemment. Et bien sûr, la situation globale de l'Ukraine se détériore, mais sur tous les plans, sur le plan économique, sur le plan industriel, sur le plan énergétique, mais également sur le plan démographique, puisque c'est un pays qui, en 2022, était environ à 40 millions d'habitants et qui, actuellement, serait aux alentours de un peu plus de 20 millions d'habitants, avec une fuite de nombreuses populations et notamment une grosse part d'émigration en direction de la Russie, ce qui pose également un problème sur le plan du narratif qui est vendu par les Européens au regard de cette guerre.
Eh bien, merci beaucoup Hervé Carès pour ces perspectives nouvelles que vous dessinez sur le conflit russo-ukrainien et surtout sur l'implication de l'Union européenne. Merci et à bientôt sur Radio Courtoisie.
Ligne droite avec Richard de Sèze.
Et avec toute l'équipe évidemment de Ligne droite, il est très vite, dans 20 secondes, même pas 8 heures. Merci beaucoup d'être avec nous. Nous recevons Éric Michoud dans 2 minutes, mais juste avant, un rappel des titres de l'actualité. C'est compliqué ce matin.
Autour de la crise migratoire de Ceuta, l'Union européenne a accordé hier une aide d'urgence de 115 millions d'euros à l'Espagne pour la soutenir dans la gestion de l'enclave. Au même moment, des documents des services de renseignement espagnols déclassifiés viennent contredire frontalement le Premier ministre socialiste Pedro Sanchez, qui affirmait devant les députés n'avoir reçu aucune information lui permettant d'anticiper l'ampleur de la crise. Résultat, c'est une nouvelle fois l'Europe qui subit la crise migratoire que Madrid savait venir et n'a pas su ou pas voulu anticiper. Marion Maréchal a assuré ce mercredi qu'elle sera évidemment présente aux grands événements de la campagne présidentielle de Marine Le Pen. L'eurodéputé d'Identité et Liberté certifie que personne n'a l'intention de nuire au sein du camp nationaliste. Seuls les adversaires cherchent, selon elle, à provoquer une division. Et enfin, c'est sans mea culpa qu'Anne Hidalgo défend son bilan sur le périscolaire. Alors qu'elle est visée par une plainte pénale déposée par une quinzaine de familles, elle justifie ce manque par le fait que la ville était en pleine campagne des municipales, comme si le calendrier électoral pouvait excuser l'absence d'une mère face à des familles d'enfants agressés dans des établissements dont elle avait la responsabilité pendant des années. Et nous célébrons ce 10 septembre Saint-Inès et Saint-Aubert.
Merci beaucoup, Magda.
Ligne droite.
Nos émissions, vos émissions viennent à vous. Un nouvel élan pour Radio Courtoisie. Politique, société, religion, littérature, histoire, culture. Sur toutes les plateformes, Spotify, Deezer, Apple Podcasts, Amazon Music et sur notre site internet rc.fr et podcast.rc.fr.
Oui, je vous pose une question.
Ligne droite.
Et bonjour Éric Michoud.
Bonjour.
Alors, vous êtes député UDR de la 4e circonscription de Saône-et-Loire.
Absolument.
Mais vous êtes député, mais vous êtes aussi entrepreneur.
Oui, j'ai un groupe industriel.
Voilà, vous êtes un député qui travaille dans la vérité vraie, dans la vraie société, dans le monde réel. Ouais. On est super surpris. Donc, ça existe. Il y a des vrais Français qui se retrouvent à la Chambre de temps en temps.
Oui, et il y a des vrais Français qui aujourd'hui sont au quotidien des problèmes que connaissent notre pays. On va parler du monde de l'entreprise. Comme je sais que dans le groupe Asciotti, on est beaucoup d'entrepreneurs, plus de 75% des députés du groupe sont ou ont été entrepreneurs ou dans la vie privée ont travaillé, quoi. Malheureusement, il y a des groupes sur lesquels le travail, ils connaissent pas, hein. Vous prenez les LFI à gauche là, je crois qu'il doit y avoir peut-être 5 ou 10% qui ont travaillé. Donc ils savent pas de quoi ils parlent quand ils parlent du travail.
Enfin, qui ont travaillé dans le secteur privé.
Et dans le secteur privé, oui. Ils ont travaillé dans des associations, des trucs, je ne sais pas dans quoi ils ont travaillé. Oui, dans notre groupe, il y a vraiment des gens qui sont en contact de la vie. D'ailleurs, il faut reconnaître qu'il y a encore quelques députés quand même, des médecins qui sont à l'Assemblée, des gens comme ça, donc qui peuvent parler des vrais problèmes. Et je pense que ça, c'est important aujourd'hui.
Ah, donc justement, ces vrais problèmes, ce sont les PME, les TPE, là, qui sont étranglés par l'État français, avec parfois des choses grotesques dont on se demande pourquoi est-ce que l'administration ou l'État n'est pas capable de comprendre qu'elles sont déplacées. Vous avez posé une question écrite au gouvernement il y a très peu de temps, notamment sur la gestion de l'eau. Donc évidemment, il y a une crise hydrique, il n'y a pas assez d'eau, mais l'État a décidé de restrictions incroyables, c'est que les PME et les TPE qui ont besoin de l'eau pour leur fonctionnement était rationné comme tout le monde, indépendamment donc de la nécessité d'utiliser cette eau pour leur activité.
Oui, enfin là, on va dire c'est des règles un peu, j'oserais dire, stupides ou à l'emporte-pièce ou pour communiquer, parce qu'il y a des entreprises qui ont besoin d'eau dans leur fonctionnement, ne serait-ce que les agriculteurs tout simplement. Enfin, le nombre, moi je suis en territoire ruraux, dans la Bresse, là vraiment on est au cœur de la ruralité. Si les champs sont pas, s'il n'y a pas d'eau, rien ne pousse, c'est qu'on va dire, mais c'est comme ça. Et c'est un vrai problème aujourd'hui. Donc l'eau, on le retrouve dans beaucoup de métiers. Elle a été rationalisée, ce qui fait que, par exemple, si on prend le cas de l'agriculture, eh ben, l'élevage en pâtit, les récoltes en pâtissent, ça va être un véritable scandale ce qui va se passer là. Les récoltes sont au plus bas qu'elles n'ont jamais été. Les agriculteurs sont dans une crise absolument. D'ailleurs, je fais ma promotion, le 26 septembre, j'organise une grande réunion autour de l'agriculture. Les auditeurs de la Bresse entendront, c'est à la Balme où on va être presque un millier à parler des problèmes de l'agriculture qui sont énormes, les règles, les normes, les lois, les surtranspositions, c'est incroyable. D'ailleurs, je pense même qu'aujourd'hui, un carnet de vaccination, même un poulet, un carnet de vaccination, je ne suis même pas sûr que nos auditeurs, pour leurs enfants, mais c'est que vos auditeurs de Radio Courtoisie sont des gens bien, ont un carnet de vaccination suivi par un... Leurs enfants ont un carnet de vaccination suivi par un médecin. Mais aujourd'hui, on met une contrainte absolument énorme. On va parler tout à l'heure des entreprises, mais une des plus grosses contraintes pour les entreprises qui créent un problème d'activité, c'est toutes ces règles, ces normes, ces lois. J'ai ressorti le code du travail. Le code du travail. 5000 pages. 5500 pages.
Montrez-nous la tranche.
Ah, voilà. Et je peux vous dire, c'est écrit tout petit dedans. Hein. Alors là... Là, il faut en plus prendre des bonnes lunettes. 5500 pages. Ça, c'est le code du travail. Ça, c'est le code de l'environnement. Des codes comme ça, dans le monde de l'entreprise, il y en a plus que 20. Je ne vous parle même pas du code pénal et tous les codes à côté. Mais ce qui tourne autour de leur travail. Là, c'est l'environnement, ça, c'est le travail, le code du commerce, le code de la fiscalité. Et il y en a comme ça, c'est 5000 pages. C'est-à-dire 20 fois 5000 pages.
Il y a plus de 100 000 pages qu'on est censé s'avaler quand on veut poser un pied dehors en tant qu'entrepreneur.
Incroyable. 100 000 pages. 100 000 pages. Nul n'est censé ne pas connaître la loi. 100 000 pages, ça 400 000 normes, ça représente peut-être certainement 2 mètres de hauteur de papier. Mais quel entrepreneur va être capable de faire ça? Impossible. Donc voilà, on est contraint par ce genre de bizarrerie qui sclérose l'économie. Et donc l'eau, les problèmes de l'eau que vous citiez tout à l'heure, c'est encore du même acabit. On met des contrôleurs, c'est un pays qui est devenu un pays de contrôleurs. Les uns contrôlent les autres, et il y a des inspecteurs qui contrôlent les contrôleurs. Enfin, aujourd'hui, on n'est plus qu'à faire des normes et des règles qui entravent complètement l'activité économique.
Alors, justement, à l'UDR, vous l'avez rappelé, vous êtes les trois quarts du groupe à avoir travaillé dans le privé ou à travailler encore dans le privé. Quel est votre programme pour libérer l'entreprise, pour libérer la croissance?
Libérer l'entreprise, libérer la croissance, alors là c'est un très vaste sujet, j'ai déjà évoqué, libérer les normes, déstresser l'entreprise autour de toute cette réglementation, et puis à un moment, j'oserais dire, baisser les charges, tout simplement, baisser les charges sociales, les charges patronales, c'est essentiellement ça, en baissant les charges, si on baisse les charges, on va augmenter le salaire moyen net pour le salarié, et on va baisser le coût pour l'entreprise. Donc on va ramener l'entreprise dans une forme de productivité qui va lui permettre de se retrouver au niveau européen. Aujourd'hui, la France est le pays du monde, mais c'est une banalité ce que je vais dire là, mais désolé, il faut le redire pendant toute la campagne, qui est le plus taxé au monde, où les entreprises sont les plus taxées, les plus contraintes. Nous, on court avec des boulets de 10 kilos au pied. Et le problème, on y verra tout à l'heure sur l'industrie chinoise qui est en train de nous envahir et l'industrie automobile qui est en train de disparaître. Il y a un sujet aussi important pour les entreprises, notamment pour redynamiser, c'est qu'à un moment, il faudra que celui qui travaille, il ait un plus grand pouvoir d'achat que celui qui fait rien. Voilà. J'ai fait un petit calcul, c'est pas moi qui ai fait un petit calcul, c'est un de mes administrés, un grand chef d'entreprise de la Bresse, Christophe, il se reconnaîtra, salutations, il m'a fait ce tableau-là, qui est assez édifiant, je sais pas si vous le verrez à l'antenne. C'est-à-dire ici, vous avez sur cette ligne-là, quelqu'un qui ne travaille pas, qui bénéficie des aides. C'est un couple, ils font rien, ils travaillent pas. Et ici, vous avez un couple qui travaille au SMIG. Voilà, ils ont le SMIG, c'est pas beaucoup, hein. Et ici, le chiffre qui est donné ici, 22 199, c'est le pouvoir d'achat de quelqu'un qui ne travaille pas, et 13 800, c'est le pouvoir d'achat de quelqu'un qui travaille. C'est-à-dire, si vous ne travaillez pas, en réalité, vous gagnez plus que si vous travaillez. Alors, aujourd'hui, on a un problème de chômage. Mais comment voulez-vous mettre des gens au travail lorsque, quand vous ne faites rien,
Vous gagnez, vous avez plus de pouvoir d'achat que quand vous gagnez. Quand vous travaillez 13 854 de pouvoir d'achat, là-dessus, il faudra retirer la TVA quand vous allez consommer. Il reste quoi ? 10 000 euros pour vivre, pour se nourrir, pour se déplacer. C'est un scandale. Donc il faut pouvoir, pour redynamiser l'économie, améliorer les salaires. Pour améliorer les salaires, il faut baisser les charges sur les entreprises et sur les salaires. Voilà, c'est ce petit travail. Je remercie Christophe qui m'a fait un travail. Je vous le laisserai. Il est tout à fait décrit ici, poste par poste.
Mais parfait.
Ah oui, c'est absolument, problème, hein, absolument scandaleux ce qui se passe.
On sait déjà ce qu'on va mettre sur X tout à l'heure. Merci beaucoup, Eric.
J'en ai comme ça note à vous proposer sur le chômage, sur le coût de l'électricité et de l'énergie. Coût de l'électricité et de l'énergie. Aujourd'hui, vous avez ce qu'on appelle les prix négatifs de l'électricité. C'est-à-dire que l'État français fabrique de l'électricité avec ses centrales nucléaires. Merci à De Gaulle d'avoir eu l'idée de développer le nucléaire. C'est une force incroyable. L'énergie que nous produisons avec les centrales nucléaires, cette énergie qui est une énergie complètement décarbonée, qui a retrouvé une forme de grâce auprès des écolos depuis 2-3 ans. Vous vous souvenez, on a fermé Fessenheim il y a encore pas si longtemps, moins de 2 ans, on va la réouvrir. Enfin, c'est catastrophique ce qui s'est passé là. On crée une énergie aujourd'hui électrique dont on ne sait même pas quoi faire il y a des moments de l'année. Et donc, comme on ne sait pas quoi en faire, on est obligé de la revendre à prix négatif aux Allemands. Alors ça, c'est un scandale absolument incroyable. C'est-à-dire que les Français ont payé des impôts pour construire des centrales nucléaires, mais aussi pour construire, on va dire, des ventilateurs qui nous servent de faire de l'électricité, les éoliennes, des panneaux photovoltaïques qui viennent de Chine, tout ce bazar-là qui vient de Chine, qui enlaidit nos côtes, qui enlaidit nos territoires, qui crée ce qu'on appelle une énergie instable. Cette énergie instable que l'on crée, on la crée majoritairement quand il y a du vent et quand il fait beau, c'est-à-dire entre, globalement, le 15 juin et le 15 septembre. Pendant cette période-là, on crée un surcroît d'énergie tellement important dans nos réseaux que pour qu'il n'y ait pas de saturation de nos réseaux, on vend l'électricité à prix négatif aux Allemands. C'est-à-dire, non seulement on leur donne l'électricité, mais on leur donne de l'argent avec ça. On leur donne de l'argent avec ça. Là, à nouveau, je vous ai fait un petit tableau. C'est un tableau, là, qui dit le nombre d'heures de production d'énergie données à l'Europe. C'est-à-dire, en 2020, on donnait 102 heures d'énergie négative, de prix négatif. On est arrivé à 513, c'est-à-dire pratiquement un mois complet d'énergie qui est produite en France, donnée aux Allemands, avec de l'argent. Ça représente des centaines de millions d'euros. Mais pourquoi, au fond, plutôt que de le donner aux Allemands, au mois de juin, juillet, août et début septembre, ne le redonnerions pas aux Français ? C'est-à-dire qu'à un moment, qu'il y a un contrat auprès des Français en disant « Pendant ces périodes-là, vous allez utiliser l'électricité, eh ben gratuitement. » Ça, ça peut se faire. Mais ce n'est même pas une utopie, puisque ça commence à se faire en Angleterre. Ça commence à se faire en Angleterre. Ce prix de l'électricité, c'est un scandale, parce qu'aujourd'hui, ce qui fait vivre l'économie, au-delà de la data, c'est l'énergie. On a cette force en France d'avoir une électricité décarbonée avec des gros volumes. Ça, c'est encore une hérésie. Toute cette installation d'éoliennes, de panneaux photovoltaïques. Je reviens de la Bretagne, on est en train de construire sur les côtes bretonnes, vers Morlaix, enfin ces coins-là, certainement des auditeurs là-bas, des éoliennes en pleine mer. C'est absolument incroyable, qui sortent à plus de 100 mètres de haut. Et ce qui est en train de se passer, l'armée commence à dire, toutes vos grandes éoliennes dont vous êtes en train de faire un mur, c'est pratiquement le mur de la Manche et le mur de l'Atlantique, ont des énormes aimants, puisque dans les éoliennes, il y a des gros, gros aimants, qui sont en train de perturber les radars de l'armée française. On est en train de s'apercevoir de ça. Il n'y a aucune réflexion. Ça va faire bientôt une dizaine d'années qu'on est en train d'installer toute cette énergie instable, à gros coûts de milliards et de subventions françaises, payées par les impôts des Français, pour aller industrialiser la Chine, puisque les Chinois, avec les aides qu'on donne aux entreprises, à leurs entreprises chinoises, nous réinstallent leur matériel. Ça, c'est pour l'énergie, mais on retrouve dans tous les cas, on retrouve dans l'automobile, ça a été la même chose à peu près partout.
Alors, Éric Michaud, vous nous dressez un tableau évidemment apocalyptique de la politique industrielle de la France. Emmanuel Macron, avec Choose France, donc, est capable d'attirer des capitaux saoudiens, sans les avoir sécurisés d'ailleurs, pour nous promettre un parc Dragon Ball, sans que les Japonais aient été mis au courant qu'ils étaient filés les licences. Il va y avoir encore un Choose France d'ailleurs en janvier ou en février, parce qu'il faut continuer à faire rouler le carrosse de la prétendue attractivité de la France. Vous, en tant qu'entrepreneur, On a un maquis de normes dans lequel vous vous perdez. On a une énergie qui coûte horriblement cher, mais alors qu'on aurait les moyens de la donner aux Français et aux entrepreneurs à un prix bien plus intéressant, voire gratuitement dans certains mois de surproduction. Quel est l'état d'esprit des entrepreneurs? Est-ce que véritablement ces deux quinquennats ont été ceux de la réindustrialisation, des cadeaux faits aux entreprises, comme on l'entend du côté de la gauche, pour ce qui est des cadeaux, et du côté de Macron pour ce qui est de la réindustrialisation?
Non, il n'y a pas eu de cadeaux faits aux entreprises. Il faut retirer cette idée-là. D'ailleurs, l'entreprise est par nature sociale et solidaire, l'entreprise française. L'entreprise paye la retraite, paye la santé, paye pour les collectivités, les transports. L'entreprise est aujourd'hui le premier financeur de tout notre train de vie. Donc l'entreprise aujourd'hui, il n'y a pas de cadeau sur l'entreprise. Il faut retirer cette espèce de mythe complètement débile. Non, il n'y a pas de cadeau. Et je tiens à souligner et remercier tous les entrepreneurs pour leur engagement. Il est absolument incroyable. Il faut vraiment être pétri et d'aimer la France, et d'aimer l'entreprise, et d'aimer ses collaborateurs pour faire vivre ses entreprises. Vous avez parlé d'un carnage tout à l'heure industriel. C'est, oui, un carnage industriel. Je ne parle pas des éoliennes, les panneaux photovoltaïques où la France avait des activités là-dedans. On les a perdus au profit des Chinois qui nous réinstallent leur matériel avec leurs onduleurs. D'ailleurs, sujet stratégique, tous ces matériels chinois qui sont avec de l'électronique chinoise et pilotables à distance, ça veut dire que le jour où des hackers auront l'intention de bloquer ces systèmes-là, ils pourront le faire. Ce n'est pas, en train de se faire des plans. Il s'est passé ça, je crois, ça va être au Danemark, où tout un parc de bus chinois a été bloqué parce qu'un hacker a bloqué les systèmes électroniques. Bref, ça, c'est un autre sujet.
Et quand on voit la capacité de l'État français à protéger nos données, voilà, effectivement... Non,
c'est un gros sujet stratégique, toute cette électronique, cette capacité qu'on donne aux pays extérieurs, à l'étranger, de pouvoir piloter nos matériels. Vous avez parlé de carnage industriel, mais l'automobile, qu'est-ce qui est en train de se passer? C'est un carnage absolu. Aujourd'hui, on doit produire à peu près en France, aux véhicules français, l'équivalent d'1 400 000, 1 500 000 véhicules. Il y a moins de 20 ans, on en produisait 3 600 000. La France, il y a moins de 20 ans, produisait 8% des voitures qui se... vendait dans le monde. Aujourd'hui, on en produit moins de 2%. Ça, c'est des chiffres de production. Il ne faut pas confondre production et vente de voitures. L'électrification des véhicules a créé un gros problème, crée surtout un problème au fond que les Chinois ont vu arriver à l'histoire, ont mis en route toute une organisation industrielle qui permet aujourd'hui d'installer en Europe des produits chinois. Si l'industrie chinoise tombe, l'industrie automobile tombe en France, c'est ce qui est en train de se passer, c'est toute l'industrie qui va tomber. Pourquoi? Parce que l'industrie automobile, ça permet le développement de l'industrie de la métallurgie et de la sidérurgie. Parce que le premier client de la sidérurgie, c'est l'automobile. L'automobile permet l'automatisation et la production de produits électroniques en grande quantité. L'automobile est la capacité de mettre en route toute l'industrie aéronautique, ferroviaire, du bâtiment. Dès lors que l'industrie automobile tombe, vous ne pouvez plus avoir de sidérurgie. D'ailleurs, c'est ce qui se passe en France, on n'a plus de sidérurgie et métallurgie. Vous ne pouvez plus avoir d'automatisation et de robotisation. C'est ce qui se passe en France, on n'a plus d'automatisation ni de robotisation. La France est le pays le moins robotisé d'Europe, pratiquement dans les derniers du classement. C'est absolument incroyable dans ce pays qui a inventé l'automobile. Mais dans tous les domaines, quand on va perdre la production d'automobile, on va déglinguer d'une manière générale toute l'industrie. Et c'est en train de se passer. L'industrie chinoise est en train de nous importer ces véhicules. Tout ce qui freine aujourd'hui carrément une décadence totale à notre industrie, c'est l'installation des barrières douanières, puisque les voitures chinoises ont 30% de barrières douanières. 30%. Mais malgré ces 30%, elles sont encore moins chères que les voitures européennes. Donc pour contourner ce système-là, eh bien ils installent des usines. Et normalement, je crois, en Slovaquie, il y a une usine qui est installée. Les usines chinoises, tout en Europe, sont installées. En Espagne, même en France, puisque Stellantis est en train de vendre partiellement ses usines aux Chinois. Mais là, il y a quand même un sujet très important. Il y a un sujet très important parce que pour contrecarrer ces barrières douanières, les Chinois nous envoient leurs voitures en kit. Alors écoutez bien la théorie, mais quelle est la pratique? Les voitures en kit, c'est quoi? C'est-à-dire aujourd'hui, dans une voiture électrique produite
En France, pratiquement 60% des pièces viennent de Chine. La batterie, 90% des batteries qui sont montées sur les voitures en France, sont des batteries chinoises. Pratiquement 80% de l'électronique est chinoise. Aujourd'hui, sur une voiture qui est produite, 60 à 70% des pièces qu'on dit françaises, voitures françaises, sont produites en Chine. Donc les Chinois revendent leurs pièces aux constructeurs français qui montent ces pièces-là sur leurs voitures dites françaises, notamment en Slovaquie. C'est le cas de la Twingo. Twingo électrique étudiée en moins de 2 ans par 150 ingénieurs chinois et des pièces montées qui viennent de Chine sur cette Twingo. Et d'ailleurs, dans le même état d'esprit, la nouvelle Dacia, je pense que c'est la Dacia Sprint, qui va être aux alentours de 13 500 euros, sont que des pratiquement 60% de pièces chinoises, sont pratiquement des voitures chinoises. Donc pour contrecarrer la barrière douanière, les Chinois vendent leurs pièces, leurs voitures en pièces détachées aux constructeurs français qui font une espèce de, on va dire, de lifting de voitures. Mais en fait, vous n'avez en réalité que des voitures chinoises. Et ça, c'est en train de déglinguer complètement notre industrie automobile, avec tout ce que ça veut dire derrière sur toutes les PME évidemment qui travaillent pour l'industrie automobile.
Alors, Éric Michoud, là aussi, donc c'est une situation catastrophique parce que on n'a pas du tout l'impression que la France est capable de s'opposer à cette invasion chinoise. C'est l'Union européenne qui en fait installe ou n'installe pas les barrières douanières et on a l'impression que systématiquement l'Union européenne a fait le choix en fait des bas prix prétendument pour favoriser le consommateur sans se rendre compte qu'une fois que le consommateur est au chômage et qu'il est ruiné, il y a quand même beaucoup de chances qu'il ne consomme pas du tout ou en tout cas qu'il consomme beaucoup moins.
Bah évidemment, le consommateur qui est après derrière au chômage avec plus de moyens, il va plus consommer. Et si tant est qu'il consomme, admettons qu'il est, c'est-à-dire que c'est toujours la théorie, est-ce qu'il faut relancer l'activité par la consommation ou par la production? Bon, moi j'ai tendance à penser qu'il faut relancer l'activité économique par la production. Si vous mettez 1 euro...
Ce qui est typiquement le contraire de ce que fait Macron depuis 10 ans.
Bah bien sûr, puisque quand vous mettez 1 euro dans le système d'aide d'une manière X ou Y, c'est même catastrophique. Si vous donnez 1 euro aujourd'hui à quelqu'un pour relancer l'activité et que 7 euros, la personne achète une voiture, en fait, il ne va pas financer l'industrie française, il va financer l'industrie chinoise. C'est-à-dire que l'État finance l'industrie chinoise sur la consommation. Alors que si vous mettez 1 euro sur la production, lorsque vous mettez 1 euro pour la fabrication d'une usine, c'est 1 euro reste en France, mais c'est 1 euro, je prends le cas de 1 euro, il va permettre de créer des emplois, il va permettre de créer tout un système qui va créer de la richesse. C'est-à-dire notre argent, on le donne, je l'ai dit tout à l'heure, dans les prix de l'énergie négatif, mais à peu près partout. Intéressez-vous, ça va être un beau sujet, intéressez-vous aux subventions de la CARSAT. On en parlera une autre fois.
Bon, dites-nous déjà ce que c'est que la CARSAT.
Non, ah bah non. La CARSAT, si, la
je CARSAT. Vous promets que je vous réinvite, mais vous pouvez quand même nous dire ce que c'est que la CARSAT.
La CARSAT, c'est l'organisme qui aide à installer la sécurité au travail et le bien-être des salariés. C'est très très bien. C'est une bonne chose. Mais là, il y a quelque chose à regarder quand même sur le financement de la CARSAT et à quoi sert l'argent de la CARSAT. Sur l'investissement. Bref, on n'a pas le temps de discuter de tous ces sujets-là. Il y a un moment, il faut quand même réindustrialiser le pays. Pour réindustrialiser le pays, eh ben, faut l'argent des Français, faut le remettre dans le système productif français et pas l'envoyer comme on a fait pour les panneaux photovoltaïques chinois, les éoliennes chinoises, les batteries chinoises, les onduleurs chinois. Et bientôt, le scandale qui va arriver, les data centers, qui vont être des data centers chinois ou américains installés sur notre territoire. Mais c'est ça qui va se passer si on ne se... Parce que les data centers, il ne faut surtout pas rater le développement. C'est un truc énorme, les data centers. Mais on va passer à côté à nouveau. Le temps qu'on est en train d'étudier tout ça, les data centers sont en train de se produire en Chine, se produire aux États-Unis. C'est d'énormes blocs, ça ressemble à des grosses boîtes qui nous sont amenées en Chine et qui se juxtaposent les unes à côté des autres, comme des conteneurs. Et les Chinois sont capables de monter un data center en point de temps. Ils font une structure béton, ils amènent leur conteneur et ils créent un data center. Ça va très très vite. Et aujourd'hui, et je reviens, j'en fais pas une fixation sur les normes, sur les règles, sur les lois,
non, mais quand même,
le code de l'environnement.
Vous avez raison de faire une fixation.
Quand pour monter, moi j'essaie de monter j'ai un projet de monter un poulailler pour faire des œufs en Bresse. C'est logique. C'est le plus beau pays pour les poules. Faire des œufs là-bas, il faut plus de 3 ans pour monter un poulailler, pour avoir une autorisation de construction. On a des autorisations de construction. Il faut des années. J'ai construit des usines, il faut parfois 3 ans, 4 ans, 5 ans. Pendant tout ce temps-là, les Chinois, ils ont avancé très rapidement, ou les Américains, même les Allemands. On parle de la climatisation et du chauffage. Quand même, on va climatiser la France. Mais est-ce que quelqu'un s'est posé la question de est-ce qu'on est capable de produire des climats en France? Moi, je dis qu'on est capable de produire des climats en France. On a la capacité industrielle de le faire, mais on ne s'est pas occupé de savoir et de créer le réseau de fabrication des climatisations. On va donc mettre des milliards dans les climatisations, dans des aides, que ce soit aux entreprises, aux collectivités locales ou même aux personnes physiques, pour acheter des climatisations qui viendront d'où?
De Chine.
Bravo, monsieur. Et pourtant, on est un pays intelligent, des grands ingénieurs. On sait faire des climatisations. Mais plutôt que de dire, on va climatiser le pays, oui, mais on va d'abord industrialiser pour pouvoir créer nos clims. Et une fois qu'on aura créé nos clims, on pourra les vendre ailleurs. Eh ben non, l'argent qu'on va utiliser, qu'on va mobiliser pour climatiser le pays, ben il va aller en Chine ou en Allemagne. Désolé, c'est le même principe à chaque fois.
Éric Michoud, il nous reste juste 2 minutes. On voit bien, le diagnostic est imparable. D'autres dont l'ont fait, merci beaucoup de l'avoir magnifiquement résumé. Est-ce qu'il est encore temps?
Oui, il est évidemment toujours temps. Parce que le monde, il bouge vite, très très vite. Il faut accélérer. On ne peut pas rester sclérosé avec ces règles. Aujourd'hui, on est finalement au début de l'IA. On est au début d'un monde qui change, qui va changer vite, qui va changer dont personne ne sait réellement à quelle vitesse. Comme on l'a évoqué tout à l'heure, ce qui a coulé et ce qui a fait vivre l'industrie et l'énergie depuis 150 ans, c'est grâce à l'énergie, le charbon, le pétrole, l'électricité. Celui qui maîtrise l'énergie maîtrise l'économie. Ça a été la force de la France pendant ces 150 dernières années. Ceux qui vont être capables de maîtriser la data, ça sera le deuxième tuyau qui va alimenter l'économie, c'est la data, l'intelligence, les données, l'intelligence artificielle, les données. Celui qui sera capable de maîtriser ça, il sera capable de maîtriser son économie et de faire évoluer le monde. Ça, il faut reconnaître qu'on a pris du retard. Mais on n'est seulement qu'au démarrage de quelque chose. Donc, il ne faut pas perdre son temps là-dedans, il faut accélérer. Donc, il faut laisser vivre les entreprises, comme on dit, leur donner de l'air. Donc, il faut accélérer. Quand je parle des data centers, c'est absolument central. Ça va être la gestion de la donnée. Ça va permettre une espèce d'indépendance, de souveraineté. Il ne faut pas se laisser encore submerger par les Chinois et les Américains. Donc oui, il est toujours temps. On a un beau pays. On a des gens qui veulent travailler. Il faut arrêter avec cette injustice de gens qui travaillent et qui n'ont pas les moyens de vivre et de ceux qui ne travaillent pas et qui gagnent plus que ceux qui travaillent. Il va falloir ramener et de la souplesse et de la justice et du bon sens dans ce pays-là. On a été entre 1800, mais très longtemps, mais entre 1880 et 1920, quand s'est créée toute l'industrie, l'automobile a été créée en France, l'aviation a été créée en France, l'électricité pratiquement a été créée en France, la première puissance mondiale. C'est ça la France, c'était la première puissance mondiale. Aujourd'hui, on est bientôt un pays en voie de sous-développement. J'ai même pas en voie de développement, on est un pays en voie de sous-développement. Et les Français ne demandent pas mieux que de trouver un président qui leur donnera une stratégie, un cap, une ambition. On va aller où ensemble pour redresser la France?
Eh bien, Éric Michoud, merci beaucoup pour cette conclusion. J'espère que les Français vont vous entendre. Et bien sûr, vous reviendrez nous parler de la CARSAT. Voilà, c'était particulièrement alléchant. Donc, à très bientôt sur Radio Courtoisie.
C'est moi qui vous remercie de m'avoir accueilli.
Merci. Ligne droite avec Richard de Sèze.
Il est 8h27, merci beaucoup d'être avec nous. Tout à l'heure, nous recevrons Régis Le Sommier avec la chronique d'Alice Cordier qui le précédera. Mais tout de suite, Antoine Dresse puis Jean-Luc Gana qui reviennent sur l'assassinat de Charlie Kirk. La gauche déteste-t-elle à ce point la liberté d'expression?
Vous appréciez cette émission? Alors aidez Radio Courtoisie à en produire d'autres en indépendance totale. Rendez-vous sur soutenir.radiocourtoisie.fr. Merci d'avance. Ligne droite.
Bonjour Antoine Dresse.
Bonjour, vous m'entendez bien?
Mais oui, je vous entends très bien et on vous voit. Donc merci beaucoup d'être avec nous. Je rappelle que vous avez écrit Réalisme politique aux éditions La Nouvelle Librairie en janvier 2024. Aujourd'hui, cela fait un an que Charlie Kirk a été assassiné par un jeune gauchiste américain. On est encore stupéfait de la manière dont ça s'est passé. Bonjour Jean-Luc Gana, merci de nous rejoindre. Donc à vous deux, nous allons revenir sur le 10 septembre 2025 et se demander ce qui s'est passé et pourquoi cela s'est passé de cette manière-là. Alors,
bonjour, bonjour Richard, bonjour Antoine.
Bonjour Jean-Hugues.
Je vais laisser Egonon commencer. Je vous prie de m'excuser pour mon retard. J'ai une panne d'électricité, je suis quasiment dans le noir, comme vous pouvez le constater.
Eh bien, ça ne fait rien.
Voilà, et donc Antoine, donc, dites-nous donc, comment vous avez vécu ce 10 septembre 2025 et surtout les réflexions que cela vous a inspirées.
Les réflexions que ça m'a inspiré, c'est que finalement, c'est la perpétuation d'un schéma assez, assez récurrent dans l'histoire de la gauche extrémiste et révolutionnaire. C'est un même schéma qui se perpétue et qui peut parfois être un peu surprenant pour une conception, on va dire, ordinaire de la violence. C'est-à-dire que Charlie Kirk est vu comme un grand défenseur de la liberté d'expression. C'est quelqu'un qui ne fait que parler, que défendre des idées publiquement, et il se fait assassiner par un jeune gauchiste, comme vous dites, par quelqu'un qui aurait dit avant son assassinat « J'en ai assez de sa haine, certains propos de haine ne peuvent pas être justifiés, some hate can't be negotiated out », c'est ça qui avait été dit. Okay. Mais alors, dans une conception de gauche révolutionnaire, en fait, le premier acte de violence, ce n'est pas le terroriste qui tue Charlie Kirk, ce sont les discours de Charlie Kirk eux-mêmes qui sont violents. C'est-à-dire que l'ordre social en lui-même est porteur de violence, d'une grande violence structurelle. Charlie Kirk est un représentant de cette violence. Ses discours contribuent à l'oppression des minorités, des femmes, que sais-je encore. Et donc, en fait, l'attentat contre lui n'est qu'une réponse, voire proportionnée dans leur représentation.
Voilà. Parce que effectivement, pour les gens de gauche, les woke américains, mais on a les mêmes en France, le fait d'avoir un discours de haine est l'équivalent d'un acte de haine, et donc il suffit d'avoir une parole qui blesse métaphoriquement pour justifier qu'on blesse réellement. Dans la mort de Quentin Derenck, il y en a même qui ont expliqué qu'il y avait une légitime défense préventive, donc puisque les discours de ceux qui sont désignés comme leurs ennemis les blessent et les attaquent intellectuellement, il est donc parfaitement normal d'imaginer qu'un jour ils seront blessés et attaqués physiquement, et donc il est parfaitement normal de se défendre préventivement. Jean-Yves Gana, dans la mort de Charlie Kirk, c'est aussi la mort d'un jeune Américain engagé dans un combat évidemment conservateur qui avait une méthode assez spéciale d'attaquer et de blesser intellectuellement les gens, c'est-à-dire il s'installait, posait sa chaise et invitait les gens à discuter avec lui et ils échangeaient des arguments. Et donc le simple fait que les arguments puissent être échangés dans un climat de conversation a paru odieux, puisqu'il suffit qu'une parole ne soit pas à l'intérieur de la doxa gauchiste pour que ce soit une parole à éliminer de l'agora.
Oui, Antoine l'a expliqué, pour les gens de gauche, et ce, avant Marx même, hein, mais la politique est un rapport entre oppressés et opprimeurs, enfin oppresseurs plutôt, opprimés et oppresseurs, et comme la genèse de toutes leurs pensées, c'est, en tout cas de toutes leurs méthodes, c'est la Révolution française, il y a une légitimité à commettre des massacres ou en tout cas à éliminer les obstacles au progrès. Et effectivement, nous qui sommes des gens un peu plus civilisés, on s'étonne qu'ils ne soient pas contentés de répondre argument contre argument à Charlie Kirk. Mais je crois que ça traduit une fracture plus générale dans le monde occidental où en fait le débat est impossible parce que sans doute nous ne parlons plus le même langage en réalité qu'un certain nombre de nos adversaires. Puisqu'on ne parle plus le même langage, puisque nous ne sommes plus dans la même réalité, hein, je crois que l'assassin était un transgenre ou un militant transgenre, c'est ça, je me trompe pas?
On avait dit qu'il avait commencé sa transition, en tout cas.
Voilà. Forcément, on ne vit plus dans la même réalité, dans le même monde avec ces gens-là, et on n'a plus non plus la même définition de l'oppression, puisque pour lui, c'est quiconque oserait lui dire qu'il a été assigné à son sexe par la naissance. Voilà. Donc, ne parlant plus le même langage, et là, on a vraiment une grande fracture dans toute l'Europe et aux États-Unis aussi. On ne peut plus dialoguer, on ne peut plus débattre, et ceci n'aboutira. C'est évident, ne pourra aboutir qu'à la violence. Et ils ne s'en privent pas eux. Ils la revendiquent. En France, d'ailleurs, la mouvance Antifa n'a jamais fait mystère de l'utilisation de la violence pour empêcher certaines idées de progresser. Et donc, voilà, finalement, ce n'est pas une immense surprise. On arrive juste à un stade historique où, à nouveau, il est impossible de dialoguer avec nos adversaires.
Alors, l'accusé, donc Tyler Robinson, qui a abattu le militant conservateur, a plaidé non coupable. Après, alors qu'il s'est rendu à vos autorités un jour après la fusillade, la défense américaine a d'abord tenté d'empêcher la tenue du procès, ou en tout cas de faire écarter la peine de mort, en soutenant donc que les procureurs n'avaient pas démontré que le tir ayant tué Charlie Kirk avait fait, comment dire, poser un risque mortel sur les autres personnes. Et là, même maintenant, donc, Tyler Robinson explique qu'il est non coupable. Ce n'est pas parce qu'on a braqué un fusil de gros calibre sur quelqu'un et qu'on lui a tiré dessus qu'on est moralement et intellectuellement coupable. Antoine Dresse, qu'est-ce que vous pensez de la défense de Tyler Robinson ?